Donc à cette table ronde donc qu'on va co-animer donc avec Mathias Treffaut et Thomas Schwartz sur le thème donc des vidéos en route vers des bonnes pratiques numériquement responsables. Donc le sujet en fait est un sujet de lancement d'une démarche conjointe entre la direction du numérique et le service des archives. Alors, pourquoi est-ce qu'on a lancé ce sujet? Ben, tout simplement, il y a de ça quelques mois, nous nous sommes retrouvés face à un cas pratique. Donc, si tu veux bien, juste avancer quoi, donc, d'un élément. Donc, nous sommes retrouvés donc, confrontés à un cas pratique qui était celui des vidéos du conseil municipaux et métropolitain. Et dans ce cas pratique, il est apparu que quand nous nous sommes penchés sur le cycle de vie spécifiquement de ces vidéos, que ce cycle de vie était mal maîtrisé chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on appelle mal maîtrisé chez nous? Il est apparu que concrètement, une fois que nos vidéos étaient captées par une société ou des sociétés prestataires avec lesquelles nous travaillons, nous avions un premier espace de stockage qui était celui du site internet de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole, donc strasbourg.eu, sur lesquels ces vidéos étaient quasi immédiatement transférées et complétaient la documentation écrite qui était liée au conseil. Les mêmes vidéos se retrouvent sur les serveurs de nos prestataires en tous points égaux. Et on retrouvait une troisième édition de ces vidéos sur des supports à froid, des CD, des DVD, qui étaient transmis donc à la direction du numérique. Et au bout d'un moment, elles nous étaient transmises à nous, service des archives, où nous entamions en fait un traitement assez douloureux en termes de temps, en termes d'investissement, parce qu'au préalable, nous n'avions pas de vérification de la complétude de ces vidéos, nous n'avions pas non plus de règles d'inventaire ou de règles de description des contenus de ces vidéos, voire des supports tout simplement. Nous n'avions pas défini de périodicité de transfert, ça venait quand on y pensait, plus ou moins, donc soit quand la direction du numérique pensait à nous les transférer, soit nous à les appeler. Nous n'avions pas défini non plus de règles minimales de conservation physique, ce qui fait que ces supports, quand ils nous parvenaient, nous n'étions même pas sûrs de pouvoir les lire. Et enfin, une fois qu'elles étaient arrivées chez nous, vu tous ces défauts, toutes ces contraintes qu'on n'avait pas satisfaites, du côté archives, nous mettions vraiment énormément de temps à les traiter, donc un temps de latence extrêmement important qui, du coup, suscitait aussi des enjeux démocratiques d'accès en fait, à ces informations-là. Enfin, je dirais qu'il y avait une dernière dimension qui était la dimension tout simplement des unités de stockage. Nous n'avions pas du coup de visibilité sur qu'est-ce qu'il nous fallait comme infrastructure pour pouvoir stocker tous ces éléments-là. Bref, on était dans une situation relativement complexe et on s'est dit qu'il va falloir faire quelque chose pour pouvoir répondre à tout ça. Alors, par voie de conséquence, il y a plusieurs éléments qui sont apparus, une démultiplication qui était non raisonnée, mais extrêmement rassurante pour tout le monde. Chacun se disait, je vais garder chez moi ces vidéos, comme ça je sais au moins que je les ai, et puis ne voyait pas forcément ce qui se passait ailleurs. Et cette démultiplication donc, du stockage avait pour conséquence, d'une part, une déresponsabilisation. Qui est responsable? Qui a le master de ces vidéos? Et de l'autre côté, évidemment, en termes de numérique responsable, nous ne checkions pas du tout la bonne case. Et c'est sur cette base-là qu'on a décidé donc de démarrer cette réflexion. Et la réflexion de la démarche, on a décidé de la faire autour d'un fil conducteur, parce qu'il nous fallait bien un point d'entrée, qui est celui du cycle de vie d'une vidéo. Et c'est le long de ce cycle de vie qu'on va vous emmener maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que le cycle de vie d'une vidéo? Généralement, on admet que toute information dont les vidéos font partie suivent en fait qu'une information suit un cycle grosso modo en trois âges. Un premier âge qu'on appelle l'âge courant, et cet âge se définit par l'usage de base, c'est-à-dire on définit que l'âge courant couvre le temps qui va démarrer au moment de la création de la vidéo et va aller jusqu'à l'usage pour lequel la vidéo a été définie à l'origine. En gros, si je décide de couvrir la kermesse de l'école, ce premier âge va démarrer au moment où j'enclenche mon bouton d'enregistrement et va aller jusqu'à la diffusion donc de la vidéo de la kermesse. Il y a un deuxième âge ensuite qui va s'ouvrir. C'est un âge qu'on appelle intermédiaire. La même vidéo, je vais la conserver parce que je sens qu'elle va encore avoir une utilité, mais plus forcément la même utilité que celle pour laquelle elle a été définie à l'origine. Elle peut avoir une utilité contractuelle, mais elle peut aussi avoir tout simplement une utilité en termes de banque d'images pour pouvoir être réutilisée à d'autres fins. Et enfin, il y a un troisième âge qui s'ouvre, qu'on appelle l'âge définitif, qui est en fait le terrain de jeu de l'archiviste. C'est le terrain, le temps où on va conserver la vidéo pour sa valeur historique et pour sa valeur patrimoniale. Et au préalable, avant ces trois âges des archives, il y a un temps qui est extrêmement important, c'est avant la création, donc ce n'est pas un âge à proprement parler, mais c'est tout le socle qui va fonder tout ce qui va se passer par la suite. Avant la création, c'est le temps où il faut réfléchir au contour contractuel, où il faut réfléchir à son cahier des charges, il faut déjà réfléchir à l'utilité de créer ou non une vidéo, et ça, effectivement, Thomas et Mathias nous en reparleront. Donc, avant ces trois âges des archives, il y a tout un temps qui est un temps fondateur et où les décisions qu'on va prendre vont être des décisions qui vont nous accompagner tout au long des trois autres âges et qui vont plus ou moins nous alléger la tâche en termes de traitement et en termes de numérique responsable. Et donc, ce sont ces trois âges précédés donc du pré-âge, donc avant la création, qu'on va maintenant dérouler. Et on a proposé en fait de se faire un premier point sur quels sont les gestes qu'on pouvait appliquer au cours de ces différents temps pour pouvoir être numériquement responsable dans la création et la gestion des vidéos.
Effectivement, maintenant je vais aborder la question un petit peu de l'impact environnemental, d'abord du numérique, d'un point de vue global. Quand on pense numérique, on voit un ordinateur, un téléphone, un smartphone, c'est des objets qui ont l'air propres, lisses, nets. On n'imagine pas un petit peu la face cachée qui peut être derrière. Donc là, je vais donner quelques chiffres, donc des chiffres qui datent de 2019, pour analyser un petit peu le poids environnemental du numérique à l'échelle mondiale. En 2019, la consommation global d'énergie, c'était 4,2% de la consommation mondiale d'énergie pour le numérique. Ça représente quasiment 4% des gaz à effet de serre, 0,2% de la consommation d'eau et 5,5% de la consommation mondiale d'électricité. Donc on voit que ça correspond à des... Les chiffres-là peuvent paraître abstraits. Et ça, quand on les met en corrélation avec des chiffres qui nous parlent un petit peu plus, voilà, 116 millions de tours du monde en voiture, 242 milliards de packs d'eau minérale, on voit que le numérique à l'échelle mondiale, a un fort impact. Et c'est aussi la même chose finalement avec le numérique en France. Donc là, c'est des chiffres qui datent de 2020. On voit que le numérique en France, voilà, c'est 6,2% de la consommation d'électricité, 2,2% de la consommation d'eau et 3,2% des gestes en France. Donc là, on se dit, le numérique, voilà, ma vidéo finalement que je regarde, voilà, on a tous des comptes sur Netflix, Amazon Prime, mais finalement, les vidéos qu'on regarde comme ça pour se détendre, on ne se rend pas forcément compte, mais derrière, il y a un impact. Et c'est aussi valable finalement pour les vidéos qu'on va être amené à créer, à tourner dans le cadre de notre travail. Tout ça pour dire, voilà. Donc on voit, et ce qui est très important aussi à noter, ce qu'on a tendance parfois à oublier, c'est que finalement, la part la plus importante de pollution numérique, c'est celle qui est liée aux utilisateurs, et notamment celle qui est liée à toute la fabrication de nos supports, que ce soit tablette, ordinateur, smartphone. Là, on a les tableaux de répartition au niveau mondial et France. Et on voit que finalement, là où il y a le plus d'impact, c'est quand même toujours quasiment au niveau de l'utilisateur. Donc, c'est au niveau des différents supports qu'on utilise tous au quotidien sans s'en rendre compte. Donc, par exemple, ça va poser la question aussi du remplacement des appareils. Est-ce que que ce soit à titre professionnel ou à titre privé, est-ce que je change mon téléphone tous les 6 mois, tous les 1 an? Est-ce que je ne vais pas plutôt, au lieu d'acheter neuf, est-ce que je vais acheter du reconditionné? Ça pose pas mal de questions et qui sont également des questions qui commencent à se poser en termes de marché aussi et d'achat pour les collectivités, pour les entreprises, parce que finalement, collectivités et entreprises sont de gros, gros consommateurs de matériel. Effectivement, on pourrait envisager de mettre en place des circuits d'approvisionnement qui sont plus respectueux de l'environnement en favorisant par exemple le réemploi, le reconditionné. Alors, donc pour en venir plus spécifiquement à la vidéo, là, le sujet qui nous intéresse maintenant, voilà, on place encore des chiffres de 2019, mais voilà, on voit que la vidéo en ligne a un impact assez considérable. C'est quand même 60% des flux de données mondiaux. C'est 300 millions de tonnes de CO2 par an, 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vrai que c'est pas anodin. Donc, c'est vrai que quand on fait de la vidéo, on doit se rendre compte qu'on est un petit peu… même si on vient au travail tous les jours en vélo, malgré tout, on va quand même polluer. C'est désolant, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que là, encore un petit schéma pour bien montrer ça aussi, le rôle des équipements dont je parlais avant. On voit l'évolution du nombre de composants dans un téléphone. C'est vrai que je n'ai pas trouvé l'équivalent avec une caméra, mais finalement, maintenant, on peut faire des films. Thomas pourra vous le dire, une partie des films qu'il réalise, il le fait avec un smartphone et avec des résultats très, très pros. Voilà, là, ce schéma, c'est juste pour montrer l'évolution du nombre de composants dans un téléphone en 60 ans. On passe de 10 éléments à 54. Ça a forcément des conséquences parce que ces éléments, il faut aller les chercher dans la nature. Donc, c'est de l'extraction à outrance qui est réalisée dans des conditions pas toujours très respectueuses donc de l'environnement, mais aussi des droits du travail. Donc, finalement, les vidéos soulèvent un tas de questions dont on n'a pas forcément conscience quand on est comme ça dans son salon, dans son canapé. Mais voilà, la vidéo a des effets négatifs. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de travailler et de produire des vidéos en ayant ça en tête. Pour justement produire peut-être moins de vidéos, mais mieux. Et voilà, c'est comme avec la viande, en manger moins, mais en manger mieux. C'est voilà, réfléchir sur nos pratiques et aussi pour essayer d'amortir, entre guillemets, l'impact potentiel de ces vidéos.
Je vais prendre le relais. Donc, Thomas Schwartz, je suis en charge de la production audiovisuelle au sein de la communication. Et mon travail, on va dire, se scinde en deux. Il y a autant la partie tournage que j'effectue moi-même avec du matériel, et je reviendrai sur ce sujet après, mais également les marchés publics. Je rédige les marchés et j'analyse les marchés qu'on a au sein de la communication sur ce qui est vidéo. Et justement, depuis l'année dernière, on a dans les critères des marchés publics, on a le critère environnemental et le critère social. Donc, même dans les marchés, ce qui est une bonne chose, la partie environnementale a fait son entrée dans notre manière de réfléchir. Sachant que ça a commencé l'année dernière, on est encore un petit peu jeune sur ces critères-là. Ils ne sont pas toujours très évidents à questionner auprès des prestataires qui sont aussi nouveaux sur ces questions-là. Ils ont, pour être honnête, les entreprises avec qui je travaille, ils ont tous déjà une pratique et une réflexion sur ce qui est environnemental. Donc, ils ont déjà des outils, ils ont déjà des choses intéressantes. Mais par contre, vous avez tous déjà vu des marchés publics, il y a une manière de poser des questions, il y a une manière de rédiger, une manière d'analyser qui fait que ce n'est pas forcément si évident que ça. Et donc, par exemple, nous, dans notre marché vidéo, pour vous expliquer, c'est un accord cadre, donc on a 5 prestataires qui sont sélectionnés sur… là, on en avait 18, je crois, des postulants. Et donc, on leur avait posé 3 questions. La première, c'est quelles sont vos initiatives en matière de recyclage ou de réemploi du matériel technique devenu obsolète pour la fonction que vous exercez. Question numéro 2, quels moyens de transport utilisez-vous pour effectuer les tournages? Et question 3, quelles autres mesures mettez-vous en œuvre pour limiter l'empreinte carbone de votre activité dans le cadre de l'exécution du présent marché? Les deux premières questions sont assez pratiques, les réemploi et les moyens de transport. Mais il faut, et c'est le point de la question 3 est important, dans le cadre de l'exécution de votre marché. C'est-à-dire, si une entreprise dit qu'elle a tendance à recycler les piles de ses micros en permanence, les marchés m'ont dit, alors ok, mais ce n'est pas dans l'exécution précise du marché. Ça veut dire qu'il faudrait que mon prestataire me dise que le jour où il va faire un tournage pour l'Eurométropole, il utilisera des piles, et dans ce cadre-là, ces piles seront recyclées. Donc, si c'est un point de vue global de l'entreprise, elle n'a pas la clim, mais elle a préféré, je sais pas, avoir un système avec un toit végétalisé, peu importe, je ne peux pas le juger. Je peux juger que ce qui va concerner l'exécution précise d'un marché. Donc, c'est une gymnastique que les prestataires ne connaissent pas encore, puisque c'était la première fois qu'on utilisait ces critères-là. C'est une gymnastique que moi, je connais à peine. J'ai appris, une fois que le marché était passé, que j'étais le premier à avoir ces critères environnementaux. Donc, c'est très bien qu'on s'y mette, c'est très bien qu'on commence à réfléchir, qu'on aille dans ce sens-là. Je suis le premier à trouver ça pertinent. Mais la manière d'analyser, la manière de poser les questions, la manière que les prestataires ont de répondre à cette demande, elle est encore, pour l'instant, quand même très, très, aventurière. On a encore beaucoup de choses à trouver pour qu'on se comprenne. Et pour être honnête, tous les prestataires m'ont dit, on recycle nos piles, nos caméras, quand elles sont un peu dépassées techniquement, on les revend en occasion et on va sur les tournages à vélo. Ils m'ont absolument tous dit la même chose. Donc, je leur ai tous donné la même note, puisque j'avais aucun qui pouvait réellement passer devant l'autre. Et j'ai des entreprises qui ont des labels environnementaux, mais encore une fois, ce n'est pas sur l'exécution du marché, mais c'est d'un point de vue global. Donc, il faut vraiment trouver comment apprivoiser ces critères-là qui sont assez compliqués. J'ai appris beaucoup de choses en faisant. C'est des choses que je ne connaissais pas avant de les faire. Donc, on est sur une démarche qui commence. On est sur une démarche qui est vertueuse, mais qui a encore beaucoup de défauts, qu'il va falloir faire comprendre, que nous-mêmes, on puisse se l'approprier pour qu'on puisse l'expliquer aussi à nos prestataires. Ma responsable marché m'a dit, n'hésite pas à rencontrer les entreprises avant le marché, parce qu'on peut leur poser des questions. Donc, on n'est pas dans une démarche complètement fermée où la moindre info qu'on pourrait dire à un prestataire risquerait de l'avantager. Non, il faut essayer de rencontrer le maximum de personnes avant le marché, pas pendant, on est d'accord, mais pour discuter avec les gens, pour qu'ils aient un petit peu cette sensibilité comme nous, on leur impose, ce qui est pas évident. Donc, voilà pour le volet marché public et ses critères environnementaux qui sont encore une fois très intéressants, mais encore difficile à manipuler. Moi, je l'avoue, hein, ça a été un moment un peu compliqué c'était des allers-retours avec la commande publique pour qu'on puisse s'y retrouver. Mais voilà, pour le chapitre marché public. Ensuite, Karine tout à l'heure parlait de l'avant-vidéo. Ça rejoint ce que je vais dire, rejoint ce que disait Mathias sur l'impact du matériel. Avant même qu'on fasse la moindre vidéo, on a déjà un impact de par l'achat d'une caméra. Moi, je vais vous faire la liste de ce que j'utilise pour pouvoir faire un tournage complet. Une caméra, appareil photo ou caméra, micro, éclairage, post-informatique, mémoire, parce qu'on a aussi plein de cartes SD pour enregistrer. Tout ce matériel, c'est déjà un écosystème total pour lequel un téléphone ne suffira pas, parce qu'après, il faut encore l'ordinateur et le logiciel de montage. Puis, comme j'ai dit, le disque dur. Si on a un micro, c'est mieux. Moi, maintenant, j'ai de l'éclairage parce qu'en fonction des endroits où je vais, il n'y a pas forcément assez d'éclairage. Donc, dès qu'on met le doigt dans la vidéo, on ouvre une porte, mais il y a beaucoup de choses derrière et ça peut vite être une course au matériel. Donc, c'est compliqué. Plus on a de choses, plus on est paré au problème de son, au problème d'éclairage, et ainsi de suite. Mais on a de plus en plus de matériel à trimballer et c'est des choses à acheter, des choses à recycler en temps et en heure quand le matériel est dépassé, ainsi de suite. Donc, se lancer dans la vidéo, ça a un impact pour toutes ces raisons. Mathias parlait, on a les terres rares, on a les produits chimiques, l'eau, l'énergie, le CO2. Voilà, moi, si je transporte 10 ou 12 kilos de matériel informatique dans mon sac pour les tournages, je pense que il y a tout l'impact environnemental qui va avec. Donc ça, c'est déjà, avant même de faire de la vidéo, si votre service ou votre direction a envie de s'équiper, déjà toutes ces questions-là, est-ce que vous avez les moyens informatiques, techniques, financiers pour assumer l'achat de tout ce qui va avec. Ensuite, on rentre dans le premier âge de la vidéo. j'ai découpé en trois étapes. Donc, le tournage, j'ai mis choix des formats. Actuellement, la norme la plus classique, c'est la HD, 1920 par 1080 pixels. C'est une norme qui est en place depuis une dizaine d'années, qui commence à être très clairement chahutée par la 4K, parce que la plupart des caméras, et c'est comme ça qu'on arrive à la 4K, c'est quand le matériel de tournage atteint des certains seuils au niveau de la technique, tout suit derrière, et donc YouTube, les logiciels de montage, parce que quand on passe d'un fichier de 1080 de large à un fichier de 3000 de large, ben forcément, il faut que les bécanes elles suivent derrière, il faut que le RAM informatique suive. Et aujourd'hui, on peut trouver des caméras qui vont jusqu'à 6K ou 8K. Et pourquoi je parle du choix du format? Parce que c'est très sympa de filmer en 8K, ralenti, avec des images qui pèsent des tonnes. Ça peut être très utile, mais à quoi ça sert? Moi, à l'heure actuelle, je filme en 4K. Donc, ça veut dire que je dois avoir la mémoire sur mes caméras qui suit. Je veux aussi avoir les disques durs et ainsi de suite. Comme je le disais, c'est un écosystème, donc dès qu'on fait un choix en entrée, il faut assumer le choix jusqu'au bout. Pourquoi je filme en 4K et pas en 6K, en 8K ou en HD? La 4K me permet d'avoir une image d'une certaine taille et en fait, je peux recadrer dedans. Donc quand je fais une interview, je peux zoomer dans l'image et donc faire des coupes. Et si mon cadre, si j'avais un petit pépin, quelque chose qui traînait, je peux, à l'intérieur de la vidéo, je peux recouper un petit peu. Je ne vais pas au-delà parce qu'au-delà, c'est des fichiers encore plus lourds, donc compliqué. Pour quelqu'un qui a déjà fait plusieurs interviews dans une même journée, il faut que la batterie et les cartes mémoire suivent. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir doser. Et ensuite, quand j'exporte les films, je vais l'exporter en HD parce que je réduis de moitié la taille et donc le poids des fichiers. Donc, c'est un choix que moi, j'ai fait. Quand on parlait du processus, tout ce qu'on fait là en ce moment, c'est notre réflexion, c'est un work in progress, il n'y a pas de règles évidente, mais en tout cas, moi, j'ai choisi de rester sur la 4K en tournage et de monter en 4K et d'exporter en HD. Voilà, c'est un choix. Après, je pourrais même réduire encore plus. On pourrait se dire qu'on pourrait réduire. Après, à l'heure actuelle, faire plus petit que de la HD, ce n'est pas une norme très habituelle. Ça semblerait un peu dépassé, mais la question se pose. Je me dis, pourquoi pas, si maintenant on devait être vertueux, on pourrait se dire, tant pis, on rogne un petit peu sur la qualité des vidéos, mais on réduit notre impact environnemental. C'est une question qui reste, je trouve, qui reste ouverte. Donc, on pourrait aussi se dire, la 6K, on a plus de détails. Si maintenant, je fais des images en drone ou je filme la cathédrale et je veux avoir une vidéo très esthétique, je pourrais dire, si je filme dans une très grande résolution, si on la regarde sur YouTube, si elle est uploadée en 4K, elle aura cette finesse et j'aurai cette qualité-là. J'ai envie de dire, pourquoi pas, mais ce genre de vidéo très vitrine, comme ça, très esthétique, on n'en fait pas tous les jours quand on fait des interviews classiques. Pas besoin d'avoir la 4K et de zoomer, d'avoir à la personne une super résolution. Voilà, donc en fonction des besoins, on peut toujours aller modifier ses choix, mais je trouve que ce choix de filmer en 4K et d'exporter en HD est assez cohérent par rapport aux normes actuelles. Mais ça se trouve, demain, toutes les caméras feront de la 8K et tous les vidéastes diront c'est génial la 8K et oublieront cet aspect environnemental qui en plus, si on va sur YouTube, ils nous proposent, oui, c'est possible. Donc, pas grand monde vient nous dire « oui, attention, plus c'est qualitatif, plus ça pèse lourd et plus ça a d'impact sur les serveurs, ainsi de suite. » Mais voilà. Donc ensuite, au niveau du montage, il faut savoir que Premiere, qui est un logiciel Adobe, qui est quand même un des plus gros, voire la plus grosse marque de logiciels, Premiere est un logiciel qui est très utilisé, le logiciel est en cloud. L'impact est minime par rapport au choix de la 4K ou des choses comme ça, mais j'ai d'autres logiciels comme celui que j'utilise qui est Final Cut sur Apple. Il est sur l'ordinateur, donc ce n'est pas encore des données qui se retrouvent sur un serveur. Donc voilà, je connais pas le poids d'un logiciel sur un cloud, mais la question se pose aussi. C'est peut-être minime, mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Et ensuite, j'en parlais avant, la diffusion, pareil, le choix des formats. Comme je vous l'ai expliqué, moi, j'ai fait le choix de la HD. Maintenant, c'est sûr que quand on regarde une vidéo de sport extrême filmée dans Paris où on passe devant tous les monuments, si vous voyez ce genre de vidéo sur YouTube, il y a de grandes chances qu'elle soit en 4K ou en 6K parce qu'on est sur des images qui sont ralenties, des choses très, très précises où on veut avoir un côté un peu waouh en voyant la vidéo. OK, mais il y a aussi toutes les questions qui vont derrière. Moi, quand je fais une interview d'un élu et qu'elle est diffusée sur Internet, je n'ai pas vraiment besoin de filmer au ralenti et en 8K. Donc, encore une fois, c'est une question de choix, c'est une réflexion, mais pourquoi pas. Et ensuite, un deuxième point qui est très, très important, les doublons. depuis des années, on doublonne Dailymotion, Facebook et YouTube. D'un point de vue purement environnemental, comme on l'a ici, c'est une hérésie. C'est vraiment, ça n'a aucun sens. Mais quand on regarde le point de vue du diffuseur qui veut être vu, le mien qui est celui qui fait des vidéos et qui veut qu'elles soient le plus vues possible, le service, l'élu ou l'entité qui veut être vue le plus possible, bah, qu'est-ce qu'on fait? On la met sur Dailymotion pour qu'elle atterrisse sur Strasbourg.eu parce que c'est notre système, on fait des embeds pour ceux qui savent ce que c'est, on ne garde pas les vidéos nous-mêmes, on les met sur un portail vidéo. Mais depuis que Facebook, depuis quelques années, depuis que les algorithmes préfèrent très très largement les vidéos qui sont uploadées sur Facebook et pas les vidéos qui viennent de YouTube, Vimeo ou Dailymotion, on les met aussi sur Facebook. Et puisque YouTube, comparé à Dailymotion, qui est notre hébergeur, on va dire, historique et qui n'a pas vraiment évolué en 10 ans et qui n'est pas terrible au niveau du référencement, YouTube, c'est un petit peu mieux, c'est Google, donc forcément, c'est un peu plus vu. Ben, on se retrouve avec des vidéos qui sont sur trois portails différents. Et quand on réfléchit, comme on le fait là, sur l'impact environnemental, c'est complètement illogique. Mais d'un point de vue de communicant qui veut être vu sur toutes les plateformes, sur toutes les manières et de toutes les techniques différentes, embed, upload direct, visibilité sur Google, bah, là, c'est un peu plus pertinent. Je considère que la vérité se trouve certainement au milieu. On pourrait se dire, on abandonne Dailymotion demain parce qu'en fait, il n'est pas très performant, mais ça veut dire qu'on tire un trait sur, entre guillemets, l'archive qu'on a de bien 12 ou 13 ans de vidéos Dailymotion. Après, est-ce que ces vidéos ont encore un intérêt? Je pense que peut-être une petite dizaine qui a encore un intérêt, mais à l'heure actuelle, la vidéo de l'élu il y a deux mandatures sur les animations d'été qui ont changé de nom, qui sont plus au même endroit et qui ont lieu en 2009, je trouve que c'est peut-être pas très pertinent. Donc, depuis quelques années, depuis, je dirais, 3-4 ans, on a adopté une logique de suppression au fur et à mesure des choses. On a eu des passages sur un site vidéo qu'on a fermé malheureusement depuis parce que ça ne fonctionnait pas aussi bien qu'on le souhaitait. Bah, on avait fait le choix de dire bah, les vidéos qui ont plus de, je ne sais plus ce qu'on avait dit, qui ont plus d'un an, qui ont été vues moins de 100 fois. 100 fois, on a été gentils avec nous-mêmes. Vidéo vue 100 fois, c'est qu'elle n'a pas marché. Bah, on s'est dit, bah, celles qui sont vues moins de 100 fois, on les supprime. C'est vrai que parce qu'elles pèsent, elles ont autant d'impact environnemental que celles qui sont vues 5000 fois. Donc, on a réduit, mais on pourrait faire encore beaucoup mieux et être beaucoup plus strict et se dire, bah, tant pis, à part, on en parlait à la préparation de cette table ronde, à part les vidéos de Noël qui ont un côté un peu différent des autres parce qu'elles sont encore vues. Nos vidéos de Noël, même celles d'il y a 10 ans, je pense que les touristes qui préparent leur voyage à Strasbourg, vu que c'est des vidéos qui ont une durée de vie assez longue et qui ont été beaucoup vues, elles sont encore très visibles parce qu'elles sont bien référencées, parce qu'elles ont été beaucoup vues, même si elles sont anciennes. Celles-ci, à la limite, parce qu'il y a un côté un peu patrimonial de Noël et qu'elles ont bien fonctionné, mais la rouverture d'une piscine qui a maintenant 10 ans d'âge, peut-être pas aussi pertinent, ou une ligne de tram en 3D qui a été faite et qui est en service depuis 5 ans, pareil, c'est peut-être pas très pertinent. Donc, dans toutes les vies de la vidéo et même avant, il y a toujours des questions à se poser. Pourquoi? Comment? On pourrait être plus vertueux, mais parfois on fait des choix et on peut faire des petites entorses à l'environnement pour être plus visible peut-être. Mais voilà, on a toujours des choix. Là, on voit qu'il y en a à tous les niveaux. Et je pense que c'est une démarche qui n'est pas si difficile que ça à partir du moment où si les élus notamment et les directions sont OK pour que certains films, dont ceux que je vous ai donné l'exemple, on est OK pour les supprimer par exemple. D'une mandature à l'autre, je pense que ça ne posera pas trop de problèmes, mais au sein d'un même mandat, voilà. Il y a, je pense, des règles, et je pense qu'on est là aussi pour en parler. Si on se dit au bout de 2 ans et moins de 1000 vues, ça dégage, ça sera pas, je pense que ça ne sera pas, ça sera pas une mauvaise chose.
Effectivement, donc ce que Thomas là, donc, nous amène à considérer progressivement, ce sont 4 questions qui sont apparues quoi, dans nos dialogues, 4 questions à caractère documentaire hein, qui sont apparues dans nos dialogues. C'est qu'est-ce que je peux supprimer, au bout de combien de temps? Et c'est surtout ça qui va nous poser question. Également, la question de qu'est-ce que j'ai déjà et où est-ce que je l'ai, puisque ben, une vidéo qu'on a tournée il y a 10 ans et puis qu'on a stockée à un endroit, on ne sait plus forcément où elle était. Donc, cette question de la traçabilité quoi, de la vidéo. Et enfin, ben, intrinsèquement, ben, est-ce que ce que j'ai tourné il y a 10 ans, ben, est-ce que ce sera toujours visible? Est-ce que c'est toujours lisible aujourd'hui? Et est-ce que ce que je tourne aujourd'hui sera toujours lisible dans 10 ans? Donc, on a 4 questions, en fait, qui émergent à partir de ce premier âge et de ce qui est avant la production, qui vont nous emmener ensuite vers le deuxième et le troisième âge. Et c'est là où, sur les bases de toutes les réflexions qu'on est en train de lancer, on a identifié un certain nombre de gestes et d'outils qu'il va falloir qu'on mette en œuvre et pour sortir un petit peu de ces gestes réflexes de base qui nous sont propres pour un petit peu les institutionnaliser. Alors, dans un premier temps, la question du qu'est-ce que j'ai où, c'est-à-dire la traçabilité, identifier que j'ai déjà tourné quelque chose, que j'ai déjà certaines images qui sont là, qui sont peut-être réexploitables, réutilisables, et d'autres absolument pas, à contrario, ben, c'est s'interroger sur où est-ce que je stocke. Donc, en dehors même de la diffusion sur les réseaux, il y a même notre propre stockage sur nos serveurs, puisque c'est l'option qui a été adoptée ici à la Ville et à l'Eurométropole. Donc, d'avoir un serveur centralisé et centralisateur pour qu'on puisse un petit peu canaliser, finalement, définir un précaré quoi du stockage. Une autre option qu'on pourrait développer ici, nous, à l'Eurométropole et à la ville de Strasbourg, c'est d'utiliser notre système d'archivage électronique donc, que vous retrouvez donc sous l'acronyme SAE, qui est un système d'archivage qui peut couvrir cette phase intermédiaire. Et un système d'archivage électronique, c'est rien d'autre qu'un service des archives, hein, et là, en l'occurrence, de préarchivage. Donc, sur l'âge intermédiaire, il y a vraiment cette notion de centralisation et d'identification où est-ce qu'on va centraliser les choses. Et la même question de cette centralisation, de ce geste centralisateur, se retrouve aussi pour l'âge patrimonial, l'âge historique, où là, en plus, il faut savoir qu'on va conserver indéfiniment. Indéfiniment, ça veut dire 1000 ans, 2000 ans hein, pour l'histoire. Donc, c'est encore plus important d'avoir une trace et d'avoir la bonne trace et d'identifier où elle est. On évite les doublons, comme l'évoquait quoi, donc, Mathias, mais ça nous permet aussi d'accompagner finalement les banques de données dans lesquelles, les banques d'images dans lesquelles on va pouvoir se servir à l'avenir. La question du qu'est-ce que j'ai et où, ben c'est aussi se donner la possibilité de construire des outils pour structurer finalement ce que j'ai décidé de conserver. Et parmi les outils pour bien structurer, pour bien retrouver, on est toujours sur cette notion de traçabilité, mais il y a 3 outils qu'on a identifiés que nous n'avons pas actuellement rationalisés dans leur mise en œuvre, et ça va être l'un des enjeux donc, sur les mois à venir. Ça va être de créer des éléments comme des plans de classement thématiques à l'intérieur desquels on va pouvoir retrouver des vidéos qui tournent autour de thèmes balisés et qu'on pourrait du coup regrouper, ne serait-ce que pour voir quel est l'existant et puis les rapprochants et les différences. Il y a la question aussi des plans de nommage. Nommer ma vidéo de telle manière à ce qu'elle me parle va être importante pour éviter qu'elle ne se noie sous un code quelconque. Et puis, il y a le balisage du contenu de la vidéo avec des mots-clés descriptifs et contrôlés pour qu'on parle bien le même vocabulaire pour retrouver les contenus. Ces 3 angles, ces 3 outils, ce sont 3 outils qui permettent d'assurer une espèce de couverture hein, de l'existant documentaire et qui va nous permettre d'éviter de reproduire certaines images hein, et d'avoir des doublons à tort et à travers. L'autre élément du qu'est-ce que j'ai et où, c'est aussi former et sensibiliser les utilisateurs à la recherche. Ce n'est pas parce que j'ai déjà tous ces outils que je vais retrouver. Si mes utilisateurs ne savent pas chercher, ne savent pas où est-ce que c'est stocké, ne savent pas utiliser les stratégies de recherche, vous savez, ces petits gestes qu'on va utiliser dans un environnement, un petit contrôle F, les jumelles, etc. Si on ne sait pas faire, on ne retrouvera pas. Donc, il y a aussi cette formation, cette sensibilisation des utilisateurs qui peuvent ensuite aller piocher dans ce réservoir ou dans ces réservoirs qu'on met en place à l'âge intermédiaire et à l'âge définitif. Les 2 autres questions qui émergeaient, c'est comment éviter de saturer mes espaces et finalement, qu'est-ce que je peux détruire? Et là, il y a plusieurs gestes à mettre en œuvre. Le premier, Thomas l'évoquait, c'était de dire ben déjà traquer les multicopies. Ça paraît être évident, mais de le faire, c'est déjà tout un travail. Qui se prend le temps, qui prend le recul pour pouvoir à un moment donné dire ben, « ce truc-là, ça ne me sert plus à grand-chose ». Alors, ça a été fait, donc Thomas nous l'expliquait, mais parce qu'à un moment donné, il y a eu comme ça un geste réflexe, on dit « bon, ben, allez, maintenant on y va », mais ce n'est pas une démarche, un processus ou une procédure qui était institutionnalisée. C'est encore à l'instinct et intuitivement qu'on y va. La chasse à la multicopie est pourtant un des cœurs donc d'une consommation numériquement responsable. Et se pose derrière la question également, à laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui parce qu'elle va être étudiée dans les mois à venir pour apporter effectivement des traces d'une réflexion construite, la question des rushs. Qu'est-ce que je fais avec tous mes rushs? Ces rushs sont de temps en temps des pépites, des véritables mines dans lesquelles je peux piocher, mais je ne le mesure pas tout de suite, je peux le mesurer avec un temps de recul, et il y en a tellement que là aussi, passer le cap du montage, je parle sous le contrôle de mes collègues, passer le cap du montage, on n'y retourne pas systématiquement, sauf à savoir que là, on avait quelque chose qui était intéressant. Donc, on y reviendra sur cette question des rushs parce qu'elle mérite d'être largement creusée au regard des volumes qu'ils peuvent représenter. Deuxième geste, c'est définir des référentiels de conservation. C'est tout simplement regrouper, identifier qu'est-ce qu'on a comme famille de vidéos, comme famille d'images, et donner en face des durées de conservation qui vont être autre chose que de se dire vu plus de 100 fois, moins de 100 fois, même si ce critère va également être déterminant sur finalement le succès aussi d'une vidéo, mais de se donner aussi des pistes en termes de durée en nombre d'années, éventuellement en nombre de mois, au bout desquels il va falloir qu'on s'interroge. Est-ce que je peux détruire au bout de 3 ans, de 5 ans, etc. Il va y avoir un aspect qui peut être un critère contractuel, qui peut être derrière certaines vidéos. Il peut aussi y avoir tout simplement l'aspect caducité. Cette vidéo ne va plus me servir, donc on va pouvoir la détruire. Mais ça suppose d'avoir une mise en alerte. Et cette mise en alerte, c'est à travers ces référentiels de conservation qu'on va les détruire. Par ailleurs, il y a aussi du coup une montée en compétences, finalement des services qui produisent des vidéos, puisqu'on les autonomise, on les forme à examiner, à évaluer finalement les vidéos qu'ils ont pour pouvoir systématiser un petit peu plus ce geste de destruction. Il y a la question aussi dans ces référentiels d'avoir une approche sur, et Thomas en a parlé, sur la question de la définition la plus raisonnable, du poids le plus raisonnable à adopter. Et là aussi, le référentiel de conservation peut accompagner cette démarche. Quelquefois, quand on a pris des très grosses résolutions dès le départ, des grosses définitions dès le départ, c'est là où on peut peut-être se dire, en fonction de l'usage qu'on va en avoir à travers le temps, on peut peut-être dégrader un petit peu ces questions initiales, ces résolutions et définitions initiales, ou on va peut-être les conserver parce qu'il y a une vraie valeur de ces vidéos qu'on va emmener peut-être sur 500 ans ou 1000 ans dans le temps. Donc là encore, le référentiel quelque part contractualise, institutionnalise, amène à une réflexion de fond sur ces éléments-là. Troisième geste, ça va être celui justement de centraliser, il va être introduit effectivement par le geste de centralisation dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à vider les espaces de stockage initiaux sur lesquels on était, pour emmener les vidéos vers d'autres espaces de stockage, les banques d'images, éventuellement les systèmes d'archivage électronique, mais en n'oubliant pas de vider l'espace d'origine. Sinon, on reproduit cette gestuelle du doublon. Et ça, on va également, en général, le définir dans le référentiel de conservation, où on va créer finalement ce qu'on appelle la cinétique. On va dire qu'est-ce qu'on garde, où et au bout de combien de temps on va le sortir de là. On va l'écrire noir sur blanc dans ces référentiels. Et enfin, quand on a identifié qu'il faut supprimer, il faut vraiment supprimer les vidéos et pas juste se dire qu'on va le faire et au dernier moment ne pas le faire. C'est quelque chose, un réflexe de contrainte, de protection qu'on retrouve très souvent. Il faut vraiment y aller, il faut l'acter que ça a été supprimé, parce que sinon on va continuer à se rassurer en emmenant les choses donc d'année en année, et très vite on cumule un millefeuille de stockage et de conservation derrière. Enfin, je ne vais pas m'attarder parce qu'on en a parlé, c'est cette question du format. Ce que je tourne aujourd'hui, est-ce que j'ai choisi le bon format pour l'emmener à travers le temps? Il y a des formats qui sont plus mangeurs que d'autres, certains qui sont beaucoup moins mangeurs, mais qu'on n'est pas sûr de pouvoir pérenniser. Donc, choisir le bon format, ça peut se passer en plusieurs temps. Soit on a été extrêmement vertueux dès le départ, et avant même la création de la vidéo, on y a déjà réfléchi pour la produire dans le bon format et dans le bon dimensionnement. Et donc, on peut laisser filer la chose. Soit on n'a pas eu la possibilité ou on ne l'a pas fait. Et à ce moment-là, il y a des temps où on peut revenir dessus. Et à un moment donné, quand on décide d'emmener une vidéo plus loin dans le temps, il y a des migrations de formats opérés et qui permettent en quelque sorte de rattraper un petit peu la situation pour trouver ce bon rapport qualité-prix, consommation, numériquement responsable et durable, mais également donc pour pouvoir emmener la lisibilité à travers le temps de cette vidéo. Tous ces éléments, tous ces gestes documentaires ont essentiellement deux bénéfices identifiés pour nous à ce stade. Un raccourcissement des temps de recherche pour les utilisateurs, ce qui veut dire une diminution du temps de consommation numérique. Ce n'est pas neutre, a fortiori quand on a une cartographie complexe des espaces et des lieux de stockage. Mais on a aussi, on démultiplie la confiance de l'utilisateur dans le système. Quand on le met noir sur blanc, on peut se référer aux éléments. On a finalement une carte qui nous permet de savoir qu'est-ce qui est où à quel moment, et ça évitera ce côté vouloir se rassurer en démultipliant les espaces de stockage. Ce sont les principaux bénéfices de ce point de vue d'un système documentaire qui est consolidé autour donc de cette production de vidéos. Il y en a d'autres, bien entendu, qui est l'abaissement des coûts à tout point de vue et qui n'est pas des moindres. Abaissement des coûts de stockage, du coût de recherche aussi, mais également de la réitération de vidéos. On ne sait plus qu'on avait déjà tourné ces images-là et on va les retourner une nouvelle fois alors qu'on aurait peut-être pu les chercher dans sa banque d'images. Alors, pour revenir à ce qui était notre propos introductif, vous savez, les vidéos du conseil dont je vous parlais tout à l'heure, on a commencé à rationaliser un petit peu les choses. Et voilà où nous en sommes actuellement. Nous n'avons pas encore achevé l'optimisation de ces vidéos du conseil. Nous avions à l'origine effectivement un élément qui nous permettait de mettre en face à face, donc je vous les mets en face à face les deux schémas, nous avions un élément de captation qui nous donnait trois entrées qui elles-mêmes se démultipliaient de stockage pour les vidéos. Nous avons simplifié à ce stade déjà le schéma. Nous n'avons plus que deux entrées de vidéos, nous avons supprimé le support à froid à ce stade et nous avons mis en lien les supports de diffusion. Donc actuellement, une fois que nos prestataires ont capté les vidéos, il y a toujours une diffusion sur le site internet de la ville et de l'Eurométropole et qui a une vraie valeur d'enjeu démocratique. Ensuite, nos prestataires conservent sur leur serveur une copie de ces éléments à partir desquels nous, archivistes, nous allons travailler. Nous allons capter, nous allons aspirer avec leur collaboration donc ces vidéos pour pouvoir les traiter en les faisant accompagner de toute une série de mots-clés descriptifs, des métadonnées qui permettent aussi d'abaisser du coup le temps de traitement qui n'est pas des moindres et nous permettent ensuite de les diffuser sur le site internet du service des archives que nous avons mis en lien du coup avec celui de la ville puisque jusque-là ce n'était pas le cas. Lien qui est à la fois littéraire, il y a un petit mot qui renvoie un site vers l'autre, mais également lien en hypertexte qui permet de naviguer de l'un vers l'autre. Donc, on donne en fait progressivement une cohérence au système qui permet d'éviter cette démultiplication. La dernière étape, ce sera de définir à un moment donné quand est-ce que nous allons supprimer tous les doublons inutiles pour pouvoir encore apporter un bénéfice supplémentaire en termes de numérique responsable. Alors, pour ces derniers éléments, vous avez bien compris qu'on est en pleine phase de travail. On a démarré nos réflexions, on a un diagnostic élémentaire et on s'est donné des conclusions. Là, on vous livre des conclusions provisoires et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour vous livrer à la fois les outils qu'on aura pu construire dans l'intervalle et la réflexion qu'on va mener sur ces sujets. À ce stade, donc, nous avons recensé des typologies de gestes à mener, des éléments à mettre en œuvre, qui vont se traduire par des outils que nous cernons et que nous voulons construire. Un référentiel de conservation, un plan de classement et de nommage, des recommandations également en termes de format, de poids. Il y a aussi la question de la contractualisation avec l'ensemble des utilisateurs autour des espaces de stockage et de conservation. Et puis surtout, se poser la question dès le départ de la pertinence ou non de produire une vidéo. Et là, Thomas, je pense que tu en parleras plus mieux que moi.
Alors, c'est une question centrale, mais qui est extrêmement compliquée à trancher parce que, en général, quand on me demande une vidéo, la personne qui me la demande est persuadée que c'est la vidéo la plus importante de l'année, et ce que je peux entendre. Mais je pense que quand on est directement concerné, on est mal placé pour juger de la pertinence. Donc, c'est un vrai. J'ai failli dire le mot combat. C'est pas un combat, mais c'est parfois ça peut l'être, et d'autres fois, on trouve un juste milieu. Mais. C'est vraiment la première question, que ce soit pour des questions de pertinence de com, vu que nous on travaille dans la com, c'est est-ce que c'est pertinent de faire un film sur ce sujet et du point de vue technique, oui, est-ce que c'est pertinent d'utiliser des ressources pour ce genre de film. Et pareil pour l'archivage. Je pense que si on est concerné par un film, on a envie qu'il soit conservé 1000 ans. Par contre, quand on l'est moins, on est peut-être un peu plus à même de dire ce film ne restera pas. Ad vitam aeternam sur un serveur. Mais oui, la pertinence de la création d'une vidéo, c'est un point central et qui peut être très compliqué à débattre avec un service demandeur ou avec une personne qui en demande. Et ça, je peux l'entendre. Mais tout le monde n'a pas forcément toujours derrière tout le background suffisant pour se rendre compte qu'il y a énormément de choses, toutes les choses dont on a parlé tout à l'heure, qui font que beaucoup de vidéos sortent tous les jours sur plein de sujets dans tous les pays du monde et que si on peut éviter d'être dans une augmentation à notre tour de la quantité de vidéos, c'est pas complètement idiot. Je fais de la vidéo, mais je dis souvent à des gens la vidéo n'est pas le meilleur outil dont vous avez besoin parce que là, j'ai l'impression que une plaquette ou une page sur le site internet est plus pertinente pour plein de choses. On a déjà essayé de faire des tutos, par exemple. Les tutos... Finalement, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test avec un tuto à l'écrit et un tuto en vidéo. Eh ben, je peux vous dire que le tuto vidéo qui dure 4 minutes, eh ben, si vous l'écrivez à la main sur une page, sur un A4 ou sur une page web, ça fait cette taille-là et c'est compris plus vite par tout le monde. Alors que la vidéo, on revient. Il paraît qu'il faut 7 fois plus de temps pour intégrer une information quand elle est en vidéo plutôt que quand elle est en texte. Il semblerait que je ne suis pas du tout spécialiste, mais que ce soit simplement du fait qu'on est des animaux sociaux et qu'on a appris à apprendre avec les autres, et un peu moins en regardant des vidéos. c'est, je ne sais pas quels enjeux du cerveau sont mis en œuvre, mais en tout cas, oui, ça m'arrive souvent de dire, tu me demandes une vidéo, mais ce n'est absolument pas le meilleur moyen, mais si, ça va être sympa. Oui, mais je ne fais pas des vidéos parce que c'est sympa, je fais des vidéos parce que c'est utile. Mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît à faire passer ça, parce que quand quelqu'un s'est mis dans la démarche de dire, il nous faut une vidéo pour notre projet, bah, pour lui dire non, fais une plaquette, ça ira mieux. Les gens, en général, sont un peu déçus. Donc, parfois ça passe, parfois ça ne passe pas, mais on est tous concernés au même niveau. Et je voulais juste revenir sur un petit point sur le poids des fichiers. On parlait des rushs, petit exemple, j'ai pendant mes derniers congés, quelqu'un a demandé à un tournage, un prestataire a été mis sur le coup, le prestataire m'a donné le disque dur, j'ai 600 gigas de rush, je ne sais même pas comment le mettre sur mon ordi. J'ai répondu au service demandeur, oui, j'ai reçu les rushs, j'ai 600 gigas, je ne sais pas quoi en faire. 600 gigas, vous rendez compte, ça peut être un projet vidéo. J'ai jamais vu ça. Hein, c'est vraiment, je vous donne l'exemple parce qu'il sort de toutes les catégories, mais je peux avoir des projets vidéo qui font, parce que le fichier Final Cut dont on parlait fait des doublons, justement, lui-même fait des doublons que je supprime à la fin des projets. Je peux avoir facilement des dossiers de 150 gigas sur une vidéo. C'est quand c'est des vidéos où il y a eu pas mal de tournage, mais le logiciel lui-même fait des doublons. Donc j'ai appris ce que je ne savais pas quand j'ai eu cette nouvelle version il y a 4 ans, qu'il faut aller à la chasse aux doublons, et il y a des petits outils même dans le logiciel pour effacer la mémoire tampon au fur et à mesure pour éviter d'avoir ces choses-là. Donc voilà, la chasse au poids, ça peut être assez costaud quand on voit ce que peut représenter des vidéos en 4K. On en parlait. Suivre la mer pendant 2 jours, ça fait 600 gigas.
C'est vrai qu'à partir de là, l'ensemble de ces éléments, notre souhait, ce serait effectivement de les formaliser dans une charte, dans des fiches de bonnes pratiques, mais également d'emmener justement à sensibiliser, à former tous les acteurs, depuis le commanditaire jusqu'à l'utilisateur final, à ces éléments qu'on vient d'évoquer et qui permettent justement de filtrer un petit peu les choses pour qu'on devienne nettement plus vertueux que ce qu'on peut être actuellement. Voilà, donc ça, c'est l'état de nos réflexions à ce stade. Donc, un gros chantier qui va s'ouvrir pour nous, notamment effectivement donc à la com, donc à la base, également donc au service des archives, et puis qui sera, donc j'appelle du regard ma collègue Anne Felden, donc spécialiste de l'image qui est dans la salle, spécialiste du traitement de l'image donc archivée. Gros chantier qui va s'ouvrir pour qu'on puisse apporter des outils utiles et qu'on peut mettre en œuvre donc au quotidien donc sur cette thématique-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On vous a mis nos coordonnées. Voilà, nous sommes joignables. Vous pouvez enrichir nos réflexions, bien entendu. Oui.
Déjà, merci pour votre présentation. C'est très intéressant. Hein. Je suis sûre qu'on est un peu schizophrène dans ces domaines-là. Vous communiquez de votre côté. Par contre, on interroge un petit peu sur la dimension sociétale.
J'ai un petit retour d'expérience. Comme le critère environnemental, le critère social a été instauré à hauteur de 5%. Comme l'environnemental, ils sont au même niveau, donc on sent bien que c'est pour mettre le pied à l'étrier. On n'est pas encore sur un gros critère. Il a été abandonné dans mon marché. Ils se sont rendu compte que ça n'allait pas, donc ils m'ont dit non, celui-là on l'annule. Donc il y a encore plus de boulot pour l'environnemental. C'est encore plus compliqué de juger. Moi, des réponses j'ai eues sur la mixité homme-femme, j'ai eu sur le fait qu'il y ait des apprentis. C'est les pistes que j'ai pu voir un petit peu arriver dans les réponses des prestataires, mais c'est quand même très 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 compliqué. J'ai eu l'entreprise était uniquement composée de travailleurs handicapés. Donc en gros, c'était super, ça faisait une super note, mais on a annulé le critère. Donc même quand les gens c'était les mieux placés, on pouvait pas faire mieux dans ces critères-là, mais voilà. Donc ça reste encore un chantier en cours.
Oui.
Tu as proposé des outils de monteur, diront que ça utilise des serveurs, etc. Et d'autres pourraient dire aussi que avoir des puissants, terminaux puissants et des outils dématérialisés au fil de la virtualisation, l'utilisation des ressources uniquement, c'est une sorte d'équipe pas simple.
D'accord, et on n'a pas de chiffres vraiment pour comparer. C'est, ça doit être des sujets très complexes. Qui sait combien il y a de licences premières et combien de personnes ont encore une version ancienne sur, à l'ancienne avec un fichier qui, comment comparer, c'est un sujet ça me semble extrêmement complexe, très intéressant, mais je ne vois pas qui a... Peut-être Adobe, il pourrait faire une étude de tout, on sait tout, pour tenter ce genre de choses. Mais à notre échelle, c'est, ça me dépasse complètement.
La promesse avec les outils cloud, elle devrait aller avec l'utilisation de terminaux moins puissants, ce qui n'est pas forcément.
Ouais. Et puis la vidéo avec des choses qui sont en ligne, et je ne sais pas si. Alors pour les mises à jour, c'est intéressant, mais après pour d'autres choses qui sont peut-être en temps réel, là c'est sûr que la vidéo, même costaud, donc. Bah, je m'y connais pas assez en technique pour vraiment savoir si un logiciel en cloud est moins performant qu'un logiciel installé sur un ordi, s'il y a des choses qui se vérifient, mais en tout cas ouais, c'est un sujet vaste et j'aimerais bien avoir des infos.
Une dernière question peut-être, oui. Oui.
Oui. Des choses aussi à faire. Par exemple, sans faire des vidéos, de pouvoir choisir la qualité de télécharger, voire carrément pouvoir télécharger une version audio. Est-ce que vous pouvez pas aussi proposer des flux, par exemple le RSS, ou pas de faire par accident, juste faire les.
J'ai un élément de réponse. Je pense que c'est une des pistes pour éviter la démultiplication des lives. C'est au lieu d'avoir une vidéo en live ou une VOD,
c'est d'avoir que l'audio. Parce qu'en fait, on le faisait tout le temps avant le confinement, quand on avait des conférences qui avaient lieu, on ne captait pas en vidéo. Par contre, la régie enregistrait et après, on mettait sur SoundCloud. Donc, on a la collectivité en SoundCloud. Et on s'en sortait très bien comme ça, sauf qu'on a pris l'habitude de passer par la vidéo, donc on multiplie par 10 le poids, si ce n'est pas plus. Et ben, le son, ça marche très bien aussi.
Je vais me permettre de rajouter une réponse complémentaire. C'est justement ce qu'on est en train de faire actuellement sur notre nouveau site numérique responsable de la collectivité. Tous les flux de vidéo, on est en train de mettre différents formats de flux qui permettent justement d'avoir des vidéos de différentes résolutions. Et qui permet également d'enregistrer des formats audio de manière indépendante quand on n'a pas envie forcément de voir la vidéo associée au contenu. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter sur ce site et qui à terme va probablement s'étendre sur tous les sites institutionnels de la collectivité.
Pour l'instant, c'est assez galère.
D'accord. On doit en prendre note.
Tout à fait. Ben merci pour votre contribution. On va prendre effectivement l'ensemble des suggestions du coup d'optimisation. Très bien. Eh bien, merci beaucoup et merci de vous être déplacé. Et puis, donc, on vous donne rendez-vous dans un an pour la suite de nos cogitations et puis l'ensemble des suggestions.